France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Faudrait que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous voyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Au Venezuela, la musique classique est un véritable mode d'expression populaire. Vous connaissez peut-être El Sistema, ce réseau d'orchestres composé de jeunes de la classe moyenne et de milieux défavorisés. Mouvement popularisé par le chef Gustavo Dudamel, qui rejoindra bientôt l'Opéra de Paris. El Sistema qui a donc été créé en 1975. 1975, soit 2 ans avant la naissance de notre invité à Caracas. Cela dit, ces instruments, elles, sont les pinceaux, les crayons, la plume aussi. Artiste peintre, elle expose depuis aux quatre coins du monde et en couleur. Elle publie en cette rentrée littéraire son premier roman graphique, Ce que Frida m'a donné. Un voyage tracé à coups de crayon et au cœur de la vie de l'immense artiste mexicaine Frida Kahlo. Une quête d'inspiration, un prétexte au souvenir aussi, entre le Mexique, le Brésil et le Venezuela. Bonjour Rosa Maria Undasuki.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique. Ce danzón du compositeur mexicain Arturo Márquez, c'est vous qui l'avez choisi. Qu'est-ce qu'on a envie de se laisser emporter quand on écoute ce danzón?
J'écoute les premiers accords et je suis complètement horrorisée. Parce que je trouve les danzons est déjà d'une élégance et en même temps une sensualité. Toutes les notes qui viennent, moi je suis très touchée à chaque fois que je l'écoute.
Il y a beaucoup de nostalgie aussi.
Ah oui, aussi. Et des douceurs parce que c'est une nostalgie douce, c'est pas quelque chose de lourd, enfin, mais... Ça me touche énormément.
Quel rôle la musique joue-t-elle dans votre vie ?
Elle a une énorme place, en fait. Vous parlez tout à l'heure que mes instruments, c'est les pinceaux et les crayons. Mais moi, je pense que je peins aussi avec ce que j'écoute, avec ce que j'entends, avec ce que je sens comme parfum, avec ce que je goûte comme repas. Enfin, c'est tous les plaisirs sensoriels qui nourrissent ma peinture finalement. C'est pas que les pinceaux, les crayons, mais et puis la musique bien sûr a une place énorme déjà par la façon dont comment l'écouter à la maison.
J'allais dire la musique c'est aussi le souvenir,
ah,
les souvenirs.
Absolument. Et les contextes dans lesquels on l'écoute. C'est forcément un lien affectif. Donc,
dans quel contexte avez-vous commencé à écouter de la musique quand vous étiez petite,
dans une salle semi-souterraine extraordinaire qui était notre salle de musique à la maison de mon enfance. 2 arches qui donnaient la vue sur un jardin où les parfums de la coriandre rentraient pendant qu'on écoutait tous les disques de vinyle de mon père. Alors c'était vraiment un événement. Enfin, à chaque fois qu'il arrivait un nouvel disque, on se préparait pour vraiment l'écouter. C'était voir la pochette du disque, c'était lire les textes, c'était...
Quels sont les disques de cette époque qui vous reviennent en mémoire?
Il y a tellement, mais il y a beaucoup de la musique populaire, bien sûr. Donc Bola de Nieve... Chavela Vargas, des musiques brésiliennes, d'Ari Barroso, mais il a aussi de la musique érudite, donc Villa-Lobos ou Arturo Márquez, plein des auteurs. C'est un peu difficile à résumer. Et puis les voix extraordinaires des gens, les timbres des voix. Et les instruments, les graves des instruments, tout ça, ça résonnait.
C'est une question de vibration.
Tout à fait, des vibrations.
À quel point vous laissez-vous emporter par la musique?
Je ne sais pas à quel point, mais je l'écoute, mais intensement. Parfois, il m'arrive de vraiment m'isoler pour écouter quelque chose, ou les laisser m'accompagner pendant que je travaille, ou que j'écris, ou que j'écris. Je trouve qu'il y a beaucoup de liens entre la création d'une toile ou la création d'un texte avec la musique. Il y a des tempos, il y a des rythmes, il y a des pauses, il y a des silences, il y a des climax. Tout ça, c'est la musique qui m'emporte. Parfois, c'est une musique intérieure aussi.
Quelques notes de cette danse russe, extrait de Petrouchka d'Igor Stravinsky. Rosa Maria Undasuki, vous l'avez découvert enfant ce ballet?
Oui, j'étais petite en fait. On avait la possibilité d'enregistrer donc dans des cassettes Betamax, voilà, VHS. Et on avait pu enregistrer d'une émission à la télévision où Nureyev avait repris justement le ballet russe. Et c'est, enfin, le ballet russe, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, l'histoire de Diaghilev et de Nijinsky.
C'est un magnifique symbole de l'alliance entre peinture et musique aussi.
Absolument. C'était tous les arts autour d'une création, hein, comment, de la scénographie, l'argument, la chorégraphie, les costumes. Et puis, mon premier contact avec ça a été par la reprise de Nureyev. Et Petrouchka, c'était un enchantement, enfin, et quelque chose qui m'a touché énormément, ce personnage fragile et en même temps plein de tendresse et de joie. Enfin, c'est la musique aussi raconte des histoires, donc et ça c'est très fort dans Petrouchka parce que la propre musique raconte l'histoire de cette personnages, du marché, des gens, des animaux qui apparaissent, c'est extraordinaire.
Tout est subtilement décrit dans la musique. Vos tableaux à vous ressemblent presque à des scènes de théâtre ou des scènes d'opéra. On a ces tableaux extrêmement colorés qui représentent des intérieurs avec chaque fois cette frise ou ce cadre autour, presque comme les rideaux d'une scène de théâtre.
Oui.
C'est conscient ça? C'est quelque chose que vous aimeriez faire?
Oui. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'il y a une côté un peu scénographique de scénographie de la vie, finalement, de la vie intime d'une maison. Et puis moi je pense beaucoup à l'image filmée parfois aussi, comment on traverse un espace et comment les choses se mettent en place. Donc oui, c'est un scénario d'un événement qui va se passer ou qui vient de se passer et qu'on arrive justement quand la personne vient de partir, c'est ça. Thank you.
On part de Séville, Carmen Georges Bizet, chanté ici par Jessie Norman. À l'opéra, il y a ces personnalités qui marquent immédiatement, ces femmes intenses, orgueilleuses, passionnées. Rosa Mariam Dasuki.
Ah oui, ça c'est vraiment le type de personnages qui m'ont toujours attirée, qui m'ont toujours émue, enfin touchée. Bien sûr, Carmen, et surtout dans cette pièce, on voit toute la malice de cette femme, cette séductrice, terrible. Et cette force aussi de caractère, c'est un peu la même force chez Frida ou de personnages littéraires, par exemple Doña Bárbara, qui est le personnage de Romulo Gallegos, un écrivain vénézuélien. Oui, c'est des femmes qui sont incontournables, on peut dire ça, oui.
France Musique, Saskia Deville.
Et de Carmen, passons à Frida Kahlo, qui est au cœur de votre premier roman graphique intitulé « Ce que Frida m'a donné », un roman qui paraît aux éditions Zulma. Vous nous racontez les préparatifs de l'exposition qui a découlé de votre quête, de votre recherche sur Frida Kahlo. Vous êtes inspiré de sa maison d'enfance, la Maison Bleue, vous en avez tiré une cinquantaine de tableaux. Il y a un titre que vous avez beaucoup écouté pendant l'écriture de ce roman, c'est Maurice Ravel. La valse.
La valse de Ravel. Ça a été une pièce qui m'accompagnait dans pas mal de moments dans l'écriture. Je pense qu'il y a quelque chose d'une espèce de fatalité, d'un destin qui est un peu pré-tracé et qui, bien sûr, il y a les choix, mais il y a quelque chose qui nous emporte vers des chemins. Et mon chemin vers Frida, c'était un peu ça aussi. C'était un soir magique, je parlais avec des amis et ces amis m'ont dit « mais s'il y a une maison à laquelle tu voudrais vraiment te consacrer à un travail plus profond, ça c'est laquelle ?» J'ai dit « évidemment la maison bleue de Frida, c'était une maison un peu icône de la culture latino-américaine ». Mexicaine bien sûr surtout, mais au Venezuela j'avais entendu parler évidemment. C'était bien sûr un personnage que j'ai étudié depuis très longtemps, mais je n'aurais jamais pensé de me pencher dans un travail si profond et si conséquent que celle que j'ai fait à propos d'elle et de sa maison. Et c'était au moins 5 ans de recherche en même temps que j'ai créé les tableaux. Et toutes les retrouvailles de ces rencontres qui s'est fait au long de ces temps. Et puis la surprise que finalement, il m'a mené aussi à revoir ma vie et mon bagage, mes souvenirs. En fait, le livre et le titre du livre, c'est un peu la métaphore d'un tableau très célèbre à elle qui s'appelle « Ce que l'homme a donné ». Et donc on voit ses pieds au but de la baignoire avec toutes les images de sa vie ou des symbologies de sa vie qui surgit de l'eau. Je pense que c'est un peu ça ce que Frida m'a donné. C'était en mesure que je la connaissais, que je rentrais dans son monde, dans son univers, je voyais aussi surgir les éléments de ma propre histoire.
Thank you. La valse de Maurice Ravel, au départ imaginé comme un hommage au père de la valse, Johann Strauss. C'était sans compter sur la Première Guerre mondiale. Ravel change alors de perception, on est en 1919-1920, et il compose, je cite, « un tournoiement fantastique et fatal, grandeur décadence, destruction et spirale infernale de la civilisation ». Rosa Maria Undasuki, vous avez vous-même peint ces tableaux inspirés par cette maison de Frida Kahlo, alors que le Venezuela traversait une période compliquée. Bien évidemment, quel pouvoir conférez-vous à la peinture, à l'art, à la musique peut-être ?
De la transformation des pertes, des douleurs, et aussi une célébration à la vie et à la joie, enfin, une résistance à toutes les fatalités, justement, à tout ce qu'on ne peut pas changer, à tout ce qui nous contrainte, finalement, c'est une libération de pouvoir créer, mais pas seulement pouvoir créer, pouvoir partager aussi une création. Parce que quand j'écoute une musique, ou je vois un tableau, ou je lis un texte, cette communion qu'on fait avec l'œuvre, c'est aussi une libération. Bien sûr, Ravel a composé ça dans un contexte très particulier. Je pense qu'il y a tellement de batailles qui ont livré dès la bataille intime et personnelle de chacun jusqu'à des contextes nationaux comme le cas du Venezuela, mais qui répercutent aussi dans des individus, dans des personnes qui sont maintenant un peu parfois éparpillées dans le monde en train de reconstruire une mémoire et de construire des nouveaux liens, d'un nouvel chez soi, d'un nouvel avenir.
Et d'inviter les auditeurs, les spectateurs, les visiteurs à se laisser emporter une fois encore.
Oui, absolument. Et une chose aussi qui me surprend beaucoup de cette pièce de Ravel, c'est la grâce avec laquelle il a composé ça. Parce que, et je pense que c'est cette grâce qui est très liée aussi à la joie et à la résistance de toutes ces fatalités.
Frida Kahlo vous influence, vous, Rosa Maria Undasuki, elle influence les artistes du monde entier déjà depuis de nombreuses années, des musiciens, des compositeurs aussi. J'avais envie de vous faire découvrir, peut-être ne connaissez-vous pas encore cette pièce consacrée à Frida Kahlo, signée par le flûtiste James Newton. Nous sommes en 1994. Un extrait de cette suite pour Frida Kahlo, signé James Newton. Vous connaissiez ?
Non, je ne connaissais pas. C'est extraordinaire pouvoir découvrir quelque chose de vraiment composé pour elle. C'est magnifique.
Et puis, il y a une autre œuvre qui sera créée à l'automne 2022, un opéra, The Last Dream of Frida and Diego, de Gabriella Lena Frank. Ce sera créé, donc je le disais, à l'automne 2022. Vous qui aimez l'opéra, c'est quelque chose qui pourrait...
Ça, il faut absolument le voir.
Vous parler. Et puis, il est toujours question de voix. C'est vrai que dans votre roman graphique, vous revenez aussi sur ce fameux épisode de la voix de Frida qu'on ne connaît pas. Oui. On a cru à un moment la découvrir, découvrir un enregistrement inédit, mais
non,
pas de chance.
C'était pas elle.
Qu'est-ce que, pour vous, raconte une voix, raconte peut-être cette voix?
Bon, c'est une voix, les chapitres disent justement, une voix est une voix. Et c'est, je dis un peu, c'est la forme la plus puissante de la présence de quelqu'un. Et après, c'est comment on imagine une voix. Enfin, avec Frida, avec cette personnalité, avec cette façon de se présenter à une caméra, par exemple, une photo, on voit une présence, on peut tout imaginer. Mais je pense que cette mystère-là est très savoureux aussi.
De ne pas la connaître, justement.
on se laisse emporter par ce qu'on imagine. Ou... Parfois, il a des témoignages de sa façon de rire ou de chanter, parce qu'il chantait parfois voilà, des chansons dans les fêtes. Et on peut tout imaginer à fond. Et c'est extraordinaire, ça. Je pense qu'il faut garder le mystère aussi.
Alors, nous ne connaissons pas le son de sa voix, mais pourquoi pas un jour rêver d'un opéra dont le livret s'inspirerait de ses écrits, parce qu'il nous reste bien son journal aussi. Oui. Rosa Maria Mundasuki, je vous propose de nous quitter avec bien la voix d'Angelique Yonatos, qui a repris justement des extraits du journal de Frida Kahlo, avec ce titre « Si tan solo ». Merci beaucoup d'être merci. Venu nous voir.
Merci à toi, vraiment un plaisir.
Si tan solo tuviera cerca de mí su caricia, como a la tierra el aire se la da. La realidad de su persona me haría más alegre, alejaría del sentido que me llena de gris, nada ya sería. Tan hondo, tan hondo, tan final. Nada ya sería en mí tan hondo, tan hondo, tan hondo, tan
solo, Angelique Yonatos ici sur des phrases, des mots signés Frida Kahlo pour refermer cette émission en compagnie de Rosa Maria Mundasuki. Je vous rappelle la sortie de ce roman graphique « Ce que Frida m'a donné », un roman qui paraît aux éditions Zulma.
À réécouter sur francemusique.fr.